SBS Radio.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Alors avec nous sur les ondes de SBS French, Jessie Lucas qui participera au Festival français d'Adélaïde qui se déroule eh bien, à Adélaïde du 11 au 13 janvier prochain. Jessie Lucas présentera Rêverie électronique, un spectacle pour les tout-petits qui combine musique, ambiance et projection. Jessie, bonjour et merci d'être avec nous.
Mais bonjour, ça me fait très plaisir.
Eh bien nous aussi. Alors Rêverie électronique, qu'est-ce que c'est plus en détail?
Je le décris souvent comme une espèce de sieste électronique. C'est un temps calme, un moment pour se détendre et couper un peu de la réalité qui est des fois un petit peu trop speed, surtout en ce moment. Donc voilà, donc j'avais envie de faire une petite pause en son et en image pour les tout petits et puis aussi pour leurs parents.
Comment l'idée a germé? Est-ce que vous travailliez avant dans la musique ou dans la projection d'images et vous vous êtes dit j'ai envie, parce que c'est aussi particulier de vouloir faire ça que pour les enfants,
oui,
mais là ça touche les tout-petits, oui.
Ouais, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ça fait presque une quinzaine d'années maintenant que je travaille quasiment exclusivement sur des projets qui mêlent images et musique. Donc j'ai fait pas mal de projets assez variés, dont un projet qui était déjà pour les petits, mais plutôt à partir de 5 ans, on va dire, qui s'appelle l'Odyssée de Rick le Cube et sa suite qui s'appelle Rick le Cube et les mystères du temps. Donc ça, c'était l'histoire d'un petit personnage, un film d'animation que j'ai réalisé et coécrit avec un ami. Et on rejoue toute la bande-son sur scène. Et à partir de là, en fait, ça m'a donné envie de travailler aussi avec les tout-petits-enfants à partir de cette expérience. Et ça faisait quelques temps que j'expérimentais à partir justement de diffusion de musique sur Internet, en fait. Un peu comme de la radio, mais depuis chez moi, que je faisais toutes les semaines. J'improvisais une heure de musique pour faire un peu comme mon sport quotidien de musique, on va dire. Et à partir de là, j'ai creusé petit à petit un créneau, on va dire, de musique plus ambiante à travers ces recherches. Et en fait, il y a eu un déclic quand j'écoutais une interview de Brian Eno, qui est un des artistes qui a donné ses lettres de noblesse à ce style musical, on va dire, et qui disait que quand il avait sorti son premier album de musique ambiante, il avait appris qu'il était utilisé dans des salles d'accouchement pour détendre un peu l'atmosphère, on va dire, dans ce moment un peu particulier. Et quand j'ai entendu ça, ça me fait comme un déclic. Je me suis dit, ah tiens, là, il y a peut-être une piste à creuser. Moi, qui voulais faire quelque chose avec les tout-petits, ça, j'avais pas encore trouvé le projet qui aurait pu être intéressant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de travailler ce sillon que je creusais dans la musique ambiante autour d'un projet pour les tout-petits-enfants.
Vous avez une vidéo sur votre site qui apparaît où c'est vraiment une performance artistique pour les tout-petits. On voit une salle avec une lumière tamisée, on les voit confortablement allongés sur des coussins avec une musique un peu ambiante. On se croirait dans un festival un peu de musique pour des tout-petits, quoi. Ça les stimule?
Oui, bah, ça me stimule beaucoup parce que moi j'ai fait beaucoup de projets justement qui étaient plutôt sur scène. Je dis souvent que c'est un peu avec toute la grosse machinerie, avec la grosse projection vidéo, l'énorme écran, etc. Et je commençais à être assez à l'aise avec ces codes-là, qui sont des codes dans lesquels l'artiste est finalement assez protégé. Le public est assis dans la salle, on va dire, c'est sacralisé un peu la place de la scène, et on peut du coup travailler quelque chose d'assez particulier comme ça. Mais là, avec Rêverie électronique, je suis en plein milieu des enfants, et donc du coup, souvent je dis que les enfants font presque autant le spectacle que moi, c'est-à-dire qu'on fait ça vraiment ensemble. Il y a beaucoup moins justement ce côté un peu sacralisé de l'artiste et du public qui serait séparé, quoi. Donc du coup, ça, moi, je trouve ça génial. C'est toujours de l'expérimentation. J'improvise toujours la musique. Donc chaque séance de Rêverie électronique est différente. Je ne vais pas reprendre des morceaux que je rejoue. C'est vraiment un fil que je déroule à chaque représentation en fonction aussi de la façon dont je sens la salle, en fait. Et moi, ça m'a permis, même en tant qu'artiste, de vraiment retrouver des nouvelles idées et des nouvelles choses à travers le fait de faire ça avec les tout-petits-enfants.
Et comment ça les stimule, eux aussi? Est-ce que parfois il y a des réactions que vous voyez qui vous touchent?
Oui, alors ce qui est très intéressant, moi, je trouve, avec les tout-petits-enfants, c'est que je m'en suis rendu compte dès que j'ai fait des essais en crèche, justement, où j'essayais juste des improvisations musicales en crèche avant vraiment de créer le spectacle, c'est qu'à cet âge-là, ils ne sont pas du tout formatés. Donc du coup, ils sont vraiment tous totalement différents. C'est-à-dire qu'on sent des personnalités, des enfants, quoi. Une fois qu'ils vont tous à l'école, forcément, ça va commencer à les formater un petit peu. peut-être regarder des dessins animés, et ils vont commencer à avoir des codes un peu en commun. Là, du coup, ce qui est rigolo, je trouve, c'est de voir à quel point les réactions peuvent être très variées. Certains enfants vont être complètement scotchés, on va dire, rester très calmes, lovés dans les bras de leurs parents. D'autres vont rester excités parce que ça reste des enfants, et puis que quoi qu'on leur propose, ben, y en a, ils vont peut-être avoir envie de courir, donc ils le font quand même. Et certains sont attirés par la vidéo que je projette sur la pyramide, d'autres ne la regardent pas du tout. Certains sont totalement pris par les bruits, les sons par exemple d'animaux ou de choses comme ça que je peux amener, et d'autres ne réagissent pas forcément à ça. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié en fait. C'est ça que je trouve le plus intéressant à observer, quoi.
Et là, donc, vous participez au Festival français d'Adélaïde. Donc, c'est la première fois. Comment est-ce qu'on vous a demandé de venir? Comment est-ce qu'on vous a trouvé?
Je pense que c'est arrivé parce que la production, en fait, l'Armada Production avec laquelle je travaille du coup maintenant depuis presque une dizaine d'années, en fait, qui ne fait que des projets justement pour enfants, mais qui travaille avec des artistes qui justement n'ont pas l'habitude à l'origine de faire des projets jeunes publics. C'est un peu ça leur marque de fabrique, on va dire. Donc ça c'est toujours des propositions un peu originales, on va dire. Le directeur du coup de cette structure s'est retrouvé à partir à Adélaïde lors d'un voyage pour le travail, on va dire, et à rencontrer les gens du festival, et de fil en aiguille, du coup, ils sont revenus vers le catalogue de l'Armada, et je pense qu'ils ont été attirés par ce projet qui est un peu différent et qui a aussi un avantage, qui était dans mes buts quand je l'ai créé, c'est que je peux partir en train, en fait, et donc en avion. C'est un projet qui est très léger, justement, à transporter. Je voulais pouvoir l'amener pas forcément le plus loin possible, mais en tout cas partout. Que le fait de ne pas avoir trop de décors à transporter et tout, ça fasse partie des chances de pouvoir l'amener à un public le plus large possible, quoi.
Et donc vous êtes...
Donc voilà, j'imagine, ouais, ça a pesé.
Vous êtes basé en France, et d'ailleurs, juste après l'Australie, vous avez plein de projets, vous avez plein de dates, un peu autour de la France, justement, pour faire d'autres performances.
Ah oui, oui, tout à fait. Bah, ce projet-là, comme je disais, vu qu'il est assez léger, il me permet de voyager facilement. Donc l'été dernier, je suis parti jouer au Japon. Là, je repars avec Rick le Cube, l'autre projet dont je parlais. Ça fait 3 ans qu'on part faire des tournées en Chine. On est reparti au Japon aussi avec ce projet-là. En France, les 3-4 dernières semaines qui ont passé, j'ai dû faire 6000 km dans la France, en long, en large et en travers. Donc oui, je voyage beaucoup grâce à ça. Ouais. C'est vrai que c'est une chance. Hein. On a vraiment la possibilité d'atteindre un public large et puis de voyager pas mal.
Et pour vous trouver, pour vous suivre, pour voir un peu ce que vous faites, où vous en êtes, vous avez un site internet et une page Facebook?
Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai un Facebook du coup à mon nom, mais vous pouvez aller directement sur mon site internet, c'est tout simplement Jesse Lucas, donc jesselucas.net. Et à cette adresse, en fait, il y a tous les projets sur lesquels je travaille, parce que évidemment, quand on est un artiste comme ça, un peu protéiforme, qui travaille vidéo, son, on se retrouve à faire des choses assez variées. Donc j'ai aussi fait des installations interactives qui sont accessibles au public, des choses comme ça. J'ai plein d'idées qui me traversent la tête, et certaines d'entre elles finissent par prendre forme. Pas toutes, bien heureusement d'ailleurs. Mais vous retrouverez tous mes projets là-dessus sur le site internet.
Bon, fantastique. Jesse, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS French.
Mais c'est avec grand plaisir, et j'ai hâte de venir présenter le projet.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.